Comment faire son métier de journaliste en temps de guerre? Éviter la propagande, la partialité, la désinformation, la rumeur. Éviter aussi d'être pris pour cible, arrêté, enlevé, battu ou tué. Ces questions, des centaines de professionnels des médias se les posent depuis près d'un an en Ukraine. Qu'ils soient ukrainiens, russes, européens, américains, d'ailleurs, les journalistes qui couvrent ce conflit sont confrontés à une situation complexe où de nombreux organes d'information jouent toutes sortes de rôles et brouillent trop souvent les pistes au lieu d'apporter des éclairages. Pour tenter d'en savoir plus, de comprendre le rôle et la place des médias dans la guerre en Ukraine, l'Atelier des médias et le festival Russenko du Kremlin Bicêtre ont invité 5 journalistes qui couvrent ce conflit ou observent de près le travail de leurs confrères.
Très bien, Internet. Qu'attendez-vous de nous ?
L'Atelier des médias. La web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon De Creuse.
Et vous.
Ukraine, l'information en guerre, c'est le sujet principal de l'émission aujourd'hui. Une table ronde enregistrée samedi dernier à la mairie du Kremlin-Bicêtre. Nos invités sont Laurent Gélin, correspondant de médias français en Ukraine, Andrei Dityarenko, rédacteur en chef de Realnaya Gazeta, un quotidien devenu site internet, originellement basé à Lugansk, dans l'est de l'Ukraine, Anna Kashkayeva, journaliste russe et professeure de journalisme à Moscou, Laurent Sabek, qui suit l'Est européen à Courrier International, et Stéphane Sioran, journaliste freelance que nous contacterons par Skype dans l'Est de l'Ukraine. J'ai préparé cette émission avec Anya Stroganova du service russe de RFI qui est à mes côtés. Dans presque une heure, Francis Pisani nous propose un compte-rendu du forum NetExplo qui s'est tenu à Paris cette semaine.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
Bonjour Marie-Catherine Beuth.
Bonjour.
Comment ça va ?
Ça va très bien.
Tu veux aujourd'hui nous parler de nouveaux projets médias qui ciblent des communautés toujours plus mouvantes. De quoi il s'agit ?
Comment peut-on innover dans les médias ? Beaucoup de grandes institutions se posent la question au quotidien, ici comme ailleurs. Et il y a un secteur, je pense, qui peut nous donner un certain nombre d'idées, qui est très particulier aux États-Unis, mais où se testent et se lancent des projets assez intéressants. Quelques exemples pour commencer. Hardcover, c'est un magazine papier de Brooklyn qui veut parler au nouveau tout le monde, qui mêle beaucoup les réseaux sociaux, les communautés locales et un point de vue sur l'actualité internationale. Leur motto, regarder en profondeur ce qui se passe dans les quartiers, mais de manière globale. Dans la même lignée, il y a un nouveau site qui vient de se créer, qui est une web-série, donc une petite série de vidéos sur Internet, qui s'appelle News Hangover, et qui veut couvrir l'actualité à travers des sketchs, en ciblant principalement les femmes de moins de 35 ans. C'est vraiment un média de niche, mais qui essaye d'expérimenter une nouvelle forme d'écriture et un nouveau format pour essayer de rapporter l'actualité à des consommateurs peut-être moins servis par les médias traditionnels. Troisième exemple de projet innovant, Fusion, une chaîne télé et un réseau internet fondé en partenariat avec Disney et Univision, donc un réseau de télévision qui cible plutôt un public latino aux États-Unis, qui au départ visait les femmes latinos, qui s'est depuis un petit peu élargi vers la jeunesse au sens large, qui veut leur offrir de l'information, de la culture pop et de la satire, et qui essaye du coup de créer une nouvelle couverture plus inclusive des actualités aux États-Unis et à l'étranger.
Quelle est l'idée pour toi derrière ces différents projets ?
Il me semble qu'il y a beaucoup d'innovations qui sortent de ces projets moins grand public parce qu'ils ont très clairement défini leurs lecteurs. Ils s'adressent à des communautés de niche et donc savent très bien ce qui peut les intéresser. Par exemple, The Root, qui est un site qui s'adresse plutôt à la communauté afro-américaine, n'est pas un site destiné à l'ensemble de la communauté de manière un petit peu généralisatrice, mais qui veut couvrir l'actualité pour les influenceurs afro-américains. Par conséquent, la manière dont ils couvrent les sujets et les projets médias qu'ils mettent en place est assez spécifique. Un exemple, leur rubrique The Chatterati, qui essaye de suivre quels sont les sujets tendances auprès d'un groupe d'utilisateurs Twitter qu'ils ont identifié comme étant des relais d'opinion pour la communauté afro-américaine. Je pense que la leçon pour les médias qui sont moins spécifiques et moins précis dans leur approche, c'est de regarder est-ce que l'on connaît très bien notre utilisateur, notre lecteur, et quels sont du coup ses besoins que nous devons, en tant que médias, en tant que journalistes, servir au mieux. C'est pas évident quand on est un média d'information généraliste. Néanmoins, je pense qu'il est important qu'on se pose un petit peu la question de savoir qui sont nos communautés de lecteurs.
Merci Marie-Catherine. Je rappelle qu'on peut également lire, réécouter tes contributions sur l'atelier des médias, sur ton blog aussi du site du Figaro, Étreinte Digitale. On peut aussi suivre tes projets personnels, dont ton projet Node, N-O-D, qui veut dire News on Demand. À bientôt.
À bientôt.
L'atelier des médias, une web émission participative pour la communauté des nouveaux médias.
Après le début de la crise en Ukraine, la situation dans ce pays fait encore la une des journaux. Malgré les cessez-le-feu et les pressions économiques contre la Russie, à l'est du pays, la guerre s'éternise. Elle a déjà coûté la vie à plus de 5000 personnes. Les informations, les points de vue, les analyses divergent que l'on se trouve en France, en Europe, en Russie, en Ukraine. Il y a des tabous ou pour certains des secrets de polichinelle comme la présence de troupes russes du côté des séparatistes. Il y a de la propagande, de la paranoïa, du complotisme. Une chose met tout le monde d'accord, l'importance de ce conflit pour l'avenir de l'Ukraine, pour l'avenir de la Russie, de l'Europe et de la paix dans le monde. Il faut, pour comprendre cette guerre et pour en sortir une information fiable, sourcée, vérifiée, impartiale, il le faut, mais rien n'est fait pour le permettre. Depuis le mois de mai 2014, Reporters sans frontières, qui est d'ailleurs présent dans la salle, a ouvert un fil d'informations sur les violations de la liberté de la presse en Ukraine, en Crimée et dans les zones séparatistes. C'est la première fois depuis que je suis l'actualité des médias, c'est-à-dire 5 ans, c'est la première fois que je vois RSF réagir de la sorte. Les meurtres, décès, agressions, intimidations, enlèvements, séquestrations, disparitions de journalistes en Crimée, dans la zone de Lugansk ou dans le Donbass, sont tellement nombreux que l'Organisation de défense de la liberté d'expression a décidé de mettre à jour régulièrement un même fil. En 7 mois, il y a eu 69 mises à jour. La lecture de ces dépêches est nauséabonde. On y voit toujours des hommes et femmes désarmés, victimes de violences sauvages, délibérées, criminelles. Au plus dur des combats, les journalistes tombent au front. Ils sont 7 professionnels de médias morts depuis le début du conflit au moins. En période d'accalmie, on légifère et agit pour censurer, on perquisitionne, on détruit le matériel, on crée des ministères de l'information. Tous les camps sont impliqués dans les crimes contre la presse.
Dans la Russie voisine, la presse et la vérité sont de plus en plus malmenées. L'information est remplacée par une propagande d'État complotiste et paranoïaque. On est revenu au temps de l'Union soviétique, disent les analystes. À la différence qu'à l'époque soviétique, ajoute-t-il, il n'y avait qu'une seule Pravda. Aujourd'hui, il y en a des dizaines. C'est à qui inventera le scénario le plus fou. Les journalistes russes qui tentent encore de faire leur travail, en couvrant notamment les obsèques des soldats russes morts dans des zones de combat tenues secrètes, ces rares professionnels sont harcelés, menacés, dissuadés.
Comment peut-on couvrir la situation dans l'est de l'Ukraine? Qui a accès au terrain? Pourquoi tant de propagande et de tabous? Qu'en est-il de l'Ukraine plus généralement, de la Russie, de la vision de ce conflit dans le reste du monde? Nous en parlons avec nos invités. On commence avec Laurent Gélin. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Tu es journaliste, tu collabores au Monde Diplomatique, à RFI, à Mediapart, à Ouest France, à La Libre Belgique, au Temps, enfin à beaucoup beaucoup de médias, et tu as couvert à plusieurs reprises les conflits dans la région. Tu peux nous expliquer comment ça se passe concrètement sur le terrain, donc en Ukraine en général et plus particulièrement dans l'est du pays?
Alors, moi, j'ai été correspondant en Ukraine. Pour les journalistes étrangers, les problèmes étaient, somme toute, assez mineurs. C'était des problèmes, je dirais, logistiques, de papier, etc. Mais ça se réglait assez facilement. Ensuite, pendant Maïdan et ensuite, pendant le début de la guerre, les choses se sont, bien sûr, un peu compliquées. D'abord, avec un niveau pratique, pour se rendre dans les zones de guerre, dans le Donbass, à Donetsk, à Lugansk.
Pour situer chronologiquement, Maïdan, donc, c'est fin 2013, début 2014, et le début de la guerre, c'est au printemps 2014.
Voilà, le début de la guerre est un peu difficile à dater puisque les événements sont enchaînés progressivement. D'abord des prises d'administration régionale, ensuite des armes sont sorties, ensuite les premiers combats, les premiers morts. Tout ça s'est fait très graduellement. On a eu le temps de voir venir la guerre, on a eu le temps de la sentir arriver. Les gens sur place en février, en mars, en avril commençaient déjà à avoir peur, se posaient des questions. Il n'y avait pas encore de combats, pas encore d'armes dans les rues. C'est vrai que la peur a fait son chemin et finalement, pour créer une guerre, il y a toujours besoin d'une période de latence, quelques mois, pour faire peur aux gens. Vous prenez jamais le fusil de façon intuitive ou de façon spontanée. Il faut avoir peur, il faut craindre quelque chose pour ensuite se défendre. Donc cette peur, on le sait tous, a été distillée, notamment par les médias russes, distillée dans l'est de l'Ukraine où les gens parlent russe et où majoritairement ils regardent la télévision et les médias russes. Cette peur a été distillée d'une part par les médias russes et puis d'autre part par les erreurs à répétition du gouvernement ukrainien qui ont braqué, qui ont figé un peu cette société russophone de l'est de l'Ukraine qui, en janvier-février, n'était pas du tout préparée à la guerre et n'avait aucune envie de se battre. Vraiment, les gens étaient tout à fait pacifiques, pas particulièrement pro-russes. Les gens à Donetsk pouvaient avoir éventuellement la nostalgie de l'Union soviétique, mais pas du tout l'envie de se séparer ou éventuellement d'être annexé par la Russie.
Donc on va y revenir, mais là tu soulèves une question importante du point de vue des médias. C'est le rôle des médias dans le développement d'un esprit de guerre
dans
la population.
Tout à fait, on a vu ce phénomène monter. En tant que journaliste étranger, on avait évidemment un regard un peu distant sur ce qui se passait. On essayait, non pas d'être objectif, parce que l'objectivité n'existe pas dans le journalisme, je pense, mais en tout cas d'avoir un regard assez balancé, de comprendre un peu les uns et les autres. Et moi, j'ai vu vraiment des collègues journalistes, ukrainiens, russes, changer. C'est-à-dire des gens qui, pendant Maïdan, avaient une vision du conflit très balancée, très pro-démocratique, européenne, etc. Et j'ai vu des gens changer, se braquer, croire à des informations non vérifiées, de propagande, alors que ce soit d'un camp ou de l'autre, et finalement se laisser entraîner un peu dans le spectre de la guerre, c'est-à-dire ne plus vérifier l'information, croire tout ce qu'on dit, propager soi-même des informations fausses. Et j'ai vu des gens changer. Donc je pense que c'est cette peur distillée, les premiers combats, les premières déstabilisations qui poussent même des professionnels, des journalistes, ensuite à s'engager de façon plus partisane dans leur métier. Ensuite sur le terrain dans le Donbass, alors dans les zones contrôlées.
Pour reprendre la chronologie, au printemps la guerre.
La guerre commence, je dirais début mai, fin avril, début mai, les combats se généralisent dans le Donbass. Le 25 mai, l'aéroport de Kiev est pris par les séparatistes, l'armée ukrainienne intervient, des violents combats éclatent autour de l'aéroport. À l'époque, il y avait une 40 ou 50 morts dans la journée, dans la journée du 26 mai. Donc les combats commencent à se généraliser à la fin du printemps. Depuis longtemps, les journalistes ukrainiens avaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à travailler dans la région. C'est-à-dire, les journalistes de Kiev, pour eux, c'était extrêmement compliqué, extrêmement dangereux de travailler dans la région. Progressivement, ils vont totalement disparaître. C'est-à-dire que si un séparatiste prenait un journaliste ukrainien à cette époque-là, c'était très difficile pour lui, donc soit prise d'otage, soit éventuellement plus. Donc aujourd'hui, dans le Donbass, on n'a plus de journalistes ukrainiens. On n'a plus du tout de médias, tous les médias ukrainiens n'ont plus de personnes dans le Donbass. Donc vous imaginez bien que pour après sortir une information vérifiée de qualité, bah c'est un peu difficile, puisque effectivement on a personne sur place. Donc il y a des collègues ukrainiens qui nous demandent, nous les journalistes étrangers, quand on est dans le Donbass, à Donetsk ou à Lugansk, de leur donner des informations, puisque eux, ils n'ont plus accès à ces sources d'informations-là.
Parce que vous, jusqu'à maintenant, vous avez accès aux zones de combat, aux zones de conflit, ouais, comme Stéphane, qu'on devait avoir sur Skype, je ne sais pas si on va réussir à l'avoir.
Alors c'est une particularité un peu assez intéressante de ce conflit, c'est que les journalistes ont accès vraiment aux deux camps. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de conflits, alors je pense à la Syrie, à l'Irak, où finalement les journalistes occidentaux ont accès à un des belligérants, mais pas à l'autre. Dans ce conflit, les journalistes occidentaux peuvent aller partout, ce qui est quand même une chose assez positive.
Tous les journalistes occidentaux, américains,
oui,
européens.
Tout à fait. Tous les journalistes occidentaux, a priori, aucun d'entre eux n'a de problème. Alors les Russes ont de plus en plus de problèmes pour aller côté ukrainien. Les Ukrainiens ne peuvent plus aller chez les séparatistes, mais les Occidentaux et autres peuvent se déplacer sans trop de problèmes. Avec, alors il suffit d'avoir des accréditations, on se rend au bâtiment régional de l'administration à Donetsk ou à Lugansk, on reçoit une accréditation qui nous permet de se déplacer assez facilement. Alors l'autorité dans les zones séparatistes est assez morcelée, c'est-à-dire que dans chaque ville vous avez un petit commandant local qui peut éventuellement dicter sa loi de façon locale et vous dire non, vous n'avez pas le droit de travailler ici, même si vous avez l'accréditation du gouvernement central. C'est avec Ania, la dernière fois, on était dans
le Donbass.
Novembre
dernier.
À Ilovaïsk, et on s'est fait arrêter à Ilovaïsk par un petit commandant local qui nous a
menacé de nous mettre dans une cave, voilà. Parce qu'on n'a pas demandé l'autorisation à lui, alors qu'on avait l'accréditation.
Voilà. Bon, ça, c'était plus du folklore qu'autre chose. C'était le jour des élections chez les séparatistes, donc il allait effectivement pas nous mettre dans une cave. On était quatre journalistes occidentaux, c'était pas possible. Voilà. C'est des petits commandants locaux qui peuvent éventuellement imposer leurs lois de façon assez épisodique, mais globalement, on n'a pas vraiment de difficultés pour travailler dans le Donbass.
Pour accéder au terrain et pour accéder aux informations aussi,
Alors les informations, évidemment, on peut pas s'appuyer sur les médias, par exemple, de la Nova Russia. Les médias des séparatistes, c'est bien sûr exclu de s'appuyer sur les informations qu'ils donnent, puisque la plupart d'entre elles sont fausses. Il est très dangereux de s'appuyer sur les informations données par les médias ukrainiens. On pouvait le faire pendant Maïdan. Aujourd'hui, c'est très compliqué de le faire.
C'est-à-dire ?
Souvent, elles sont fausses. Alors, on entend une déclaration du porte-parole de l'armée ukrainienne. On va vérifier, et finalement, il n'y a pas eu de mort dans la ville en question. Voilà, ça peut arriver, des informations fausses diffusées par l'armée ukrainienne.
Et je te demandais accéder aux informations, c'est-à-dire en tant que journaliste, poser des questions, accéder au terrain, savoir ce qui se passe, savoir qui sont les militaires et qu'est-ce qui est en train de se passer exactement, etc.
Alors, les commandants séparatistes sont disposés à parler en fonction des jours, de leur humeur et de la façon dont on les aborde. Certains d'entre eux sont prêts à parler. Il n'y a aucun problème pour rencontrer à Donetsk Pouchiline ou Borodaï ou les autres commandants séparatistes, ça pose pas beaucoup de problèmes. La population, évidemment. Alors les gens, moi j'ai toujours trouvé les gens dans le Donbass absolument adorables. J'ai toujours eu aucun problème à travailler dans cette région, jamais. Avant le conflit, pendant le conflit, j'ai jamais eu de problème à travailler avec les gens du Donbass. Alors en ce moment, évidemment, la situation est un peu compliquée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des situations très très difficiles, hein, donc des gens qui meurent, dont la maison est détruite, qui ont tout perdu, etc. Donc là, c'est le métier de journaliste, je dirais, d'essayer d'accompagner ces gens dans leur témoignage, c'est-à-dire d'essayer de les faire témoigner, tout en apportant évidemment un maximum d'empathie avec ces gens qui souffrent. On n'est pas là pour les aider, c'est-à-dire qu'on n'est pas une association humanitaire, on ne va pas leur apporter à manger ou quoi que ce soit, mais on peut essayer de les écouter déjà. Et parfois, ça fait du bien, voilà, de sortir son histoire quand on a vécu des choses très difficiles. Bah, voilà, des fois, on est content de pouvoir exprimer les choses. Alors, heureusement, moi, je fais pas de télé. Moi, je sais pas comment les journalistes de télé font pour arriver avec leur caméra et filmer de façon intrusive des choses assez dures. Moi, je me contente de faire de la radio, donc ça passe peut-être aussi un peu mieux. Ça dépend du média. Il faut aussi relativiser par le fait que tous ces derniers mois, le conflit était je dirais que c'était le début du conflit. S'il s'éternise et dans deux ans, si la situation est toujours la même, les gens, au bout d'un moment, ne parleront plus à la presse ou moins. Pendant trois ans de conflit, on a tout perdu. Il y a encore un journaliste qui vient nous voir. Peut-être que les gens seront fatigués au bout d'un moment de témoigner. Mais en tout cas, dans les premiers mois du conflit, voilà, je pense qu'il faut libérer la parole et les gens ont besoin de ça aussi.
Courte pause dans l'atelier. À tout de suite. À l'Atelier des médias. Bienvenue si vous nous rejoignez. Merci d'être avec nous. Si vous nous écoutez en ligne ou via une application de podcast, nous parlons cette semaine des journalistes qui couvrent ou tentent de couvrir la guerre en Ukraine. Cette émission a été enregistrée à la mairie du Kremlin-Bicêtre dans le cadre du festival Russenko. Anya Stroganova du service russe de RFI co-anime avec moi la table ronde Ukraine, l'information en guerre. Dans une vingtaine de minutes, Francis Pisani nous propose un compte-rendu du forum NetExplo qui s'est tenu à Paris cette semaine.
L'atelier des médias. La web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon de Creuse.
Et vous.
Bonjour, Andrei Dikhtyarenko. Vous êtes rédacteur en chef du quotidien ukrainien Realnaya Gazeta à Lugansk. Lugansk, donc, c'est une ville contrôlée par les séparatistes qui est devenue la capitale de la République populaire de Lugansk. Vous travaillez également pour la radio Free Europe, pour le service ukrainien, et vous êtes un des participants actifs de la couverture de la crise. Vous avez dû quitter Lugansk et partir à Kiev. Est-ce que déjà vous souhaitez réagir à ce que dit Laurent ?
Avant toute chose, merci aux organisateurs du festival d'avoir préparé cette table ronde consacrée à la situation en Ukraine et aux problèmes que doit traverser notre pays aujourd'hui. Ils sont très nombreux. Le monde a besoin de comprendre ce qui se passe chez nous, dans quelles conditions nous vivons et travaillons. Tout d'abord, je voudrais raconter comment le conflit s'est présenté à nous, les journalistes à l'est de l'Ukraine. Ce qui s'est passé, c'est que c'est devenu très compliqué pour nous de couvrir les manifestations pro-russes qui ont eu lieu à Lugansk et Donetsk, car on a vu apparaître des personnes qui étaient là spécialement pour attaquer les journalistes. À l'apogée de ces événements, il y a eu la prise de locaux de l'administration régionale de Lugansk. Et à ce moment-là, des journalistes et des députés régionaux ont été enfermés dans le bâtiment. La foule exigeait qu'ils fassent une déclaration appelant Vladimir Poutine à faire rentrer l'armée sur le territoire de Lugansk. C'était en mars 2014. Une partie des journalistes a essayé de fuir, de quitter ce bâtiment. Mais nous avons été rattrapés par des manifestants et battus violemment. Ceux qui en ont le plus souffert, c'était les journalistes de télé, car ils portaient leur matériel et étaient donc plus faciles à identifier. Après les événements de Lugansk, les correspondants des chaînes de télévision ukrainiennes ont commencé à fuir la région, car faire leur travail devenait compliqué. Pour la presse écrite, la situation était moins difficile, car nous pouvions travailler de manière plus discrète. Nous avons eu l'opportunité, par exemple, de faire un direct lorsque le chef séparatiste Valery Bolotov faisait pression sur les autorités régionales pour organiser le référendum à la suite duquel serait créée la République de Lugansk. Au mois de juillet, les journalistes de la presse écrite ont commencé à recevoir des menaces. Certains ont été enlevés et séquestrés dans des caves. C'est grâce à une aide extérieure, notamment de confrères occidentaux et de Reporters sans frontières, que ces journalistes-là ont pu être libérés. Depuis fin juillet 2014, il n'y a plus de presse indépendante à Lugansk. Ceux qui continuent de travailler sont essentiellement des médias pro-rebelles, qui délivrent donc une image engagée de ce qui se passe. Malgré le fait que nous ayons dû quitter Lugansk, nous avons continué notre travail. Notre journal n'était plus publié sur papier, mais nous avons maintenu le site. Au mois de septembre 2014, nous avons essayé de renvoyer un correspondant à Lugansk, mais il a été arrêté sur un barrage et séquestré dans une cave pendant 2 semaines. En plus, les autorités rebelles refusaient de reconnaître qu'ils le détenaient. C'est encore avec une aide extérieure que nous avons réussi à le faire libérer. Depuis, la situation n'a fait que s'aggraver. Aujourd'hui, sur le territoire de ces régions contrôlées par les séparatistes, la télévision ukrainienne n'est plus diffusée. Les habitants ont accès uniquement aux chaînes russes. Il existe une sorte de blocus au niveau de l'information. À la fin de l'année dernière, les séparatistes de Lugansk ont publié une loi sur les médias. Un des articles de cette loi mentionne l'interdiction d'abuser de la liberté de la presse. Il y est écrit noir sur blanc que les journalistes qui vont trop loin, selon les autorités, seront punis au pénal. La loi ne précise pas quelle sorte de peine est prévue pour ces abus, mais nous savons par expérience l'expérience qu'il s'agit de séquestration, de maltraitance et de torture. Depuis ces incidents, nous avons complètement changé notre façon de travailler. Comme nous ne sommes plus physiquement présents sur le territoire, nous n'avons accès qu'aux informations des médias séparatistes. Grâce à la connaissance de la région que nous avons, nous pouvons analyser leurs infos et, en comparant les faits, nous faire une idée de ce qui se passe dans la région. Une autre source d'information pour nous, ce sont les habitants qui sont nombreux à ne pas soutenir les séparatistes et à souffrir de leur régime. Nous avons un projet avec la Radio Free Europe qui consiste à publier les témoignages de ces journalistes citoyens. Les informations qu'ils nous fournissent nous permettent d'établir des comparaisons avec les informations que nous avons tirées d'autres sources.
Nous allons parler dans un instant de la Russie et du rôle des médias russes dans ce conflit, mais avant, est-ce que vous pourriez nous dire juste un mot sur le traitement qui fait la télé ukrainienne de ce conflit, parce que la télé ukrainienne est aussi accusée d'être très partiale.
Beaucoup de journalistes ukrainiens se sentent écrasés par la propagande des médias russes au sujet de l'Ukraine. En Russie, tous les journaux télévisés du soir s'ouvrent par des nouvelles de l'Ukraine. Leur manière de présenter les événements sur place est très particulière, et les journalistes ukrainiens ne peuvent évidemment pas rester indifférents. J'admets que c'est peut-être un manque de professionnalisme, mais ils ne peuvent pas se retenir. Au lieu d'essayer de couvrir de manière impartiale ce qu'ils voient, ils essayent de réagir et de répondre à cette propagande. C'est cette réponse émotionnelle qui est la raison des accusations qui pèsent sur eux, comme celle de donner une image partielle de ce qui se passe.
Et on passe aux médias russes. Bonjour Anna Kachkaeva. Vous êtes journaliste russe, vous êtes professeure de la faculté des médias et du design de HEC à Moscou. Un mot peut-être sur ce qui s'est dit.
Bonsoir tout le monde. Je remercie les organisateurs pour l'invitation, même si je sens que je vais devoir répondre de la propagande grandissante que diffuse la presse russe et que viennent d'évoquer mes confrères. En tout cas, je voudrais faire une remarque. On essaye d'expliquer les réactions de la presse russe en disant que nous sommes retournés à l'époque de l'URSS. Ça n'est pas conforme à la réalité, c'est exagéré. C'est plus compliqué que cela.
Je vais revenir sur ce qu'a dit Laurent Gélin sur les journalistes russes et ukrainiens qui se sont retrouvés des deux côtés des barricades. Je ne vais pas juger la réaction des journalistes ukrainiens dont l'émotion est tout à fait compréhensible. En revanche, les journalistes russes, dont le pays n'est pas plongé dans la guerre, se sont transformés en soldats de la guerre médiatique. Si vous aviez suivi de manière assidu les journaux télévisés en Russie depuis 9 mois, vous auriez pu voir que presque tout est consacré à l'Ukraine. Les téléspectateurs russes ne se sentent plus chez eux. Ils ont l'impression que toute l'actualité qui les concerne se déroule en Ukraine et pas en Russie. Dans n'importe quel journal télévisé que vous auriez pu voir, surtout jusqu'à l'automne 2014, maintenant cela a baissé, il pouvait y avoir jusqu'à 10 ou 12 sujets consacrés à l'Ukraine et seulement 1 ou 2 consacrés à la Russie. Cela a conduit la population russe à percevoir la situation de manière très tranchée. Ils ont l'impression que les russophones d'Ukraine sont complètement encerclés et ont besoin d'une aide urgente que seule la Russie peut leur apporter. La télévision russe était ultra active pour montrer la guerre, ce qui est normal car c'est horrible de savoir que des civils meurent et qu'il y a des explosions. Mais le problème, c'est que la télé cherchait avant tout à créer de l'émotion. Il y avait très peu d'analyses pour tenter d'expliquer pourquoi cette situation existe, qui participe à cette guerre, avec quel financement, etc. Il faut ajouter, pour être précis, que ces questions ont été posées par certains médias en Russie. Il s'agit en général de journaux peu influents, comme des sites web ou des stations de radio, des médias à faible portée avec une influence moindre sur la population qui regarde surtout le journal télévisé le soir. Par conséquent, on peut se demander qui participe vraiment au combat dans ce conflit virtuel. On ne nous parle jamais des militaires tués, de ceux qui font vraiment la guerre. Parfois, on nous donne le nombre de victimes dans le camp ukrainien, mais très rarement ou jamais du côté des séparatistes. Dans ce conflit, ce ne sont plus les militaires, mais les journalistes qui font la guerre en jouant le rôle de soldats de l'information. Par exemple, au début des événements de Maïdan, on parlait de la junte de Kiev. Maintenant, la télé
les Russes parlent des autorités de Kiev. Avant, on parlait des fascistes ukrainiens, maintenant, on n'en parle presque plus. Mais toujours, dans tous les sujets, les médias russes vont parler séparément des autorités ukrainiennes et du peuple ukrainien. C'est un chaos médiatique. La réalité est montrée par petits bouts, comme un clip de musique. Cela nous ramène à cette question. Qui sont les vrais combattants? Qui fait la guerre aujourd'hui?
Je souhaiterais faire une remarque sur ce que disait Anna à propos d'une sorte de chaos dans le paysage médiatique russe. À mon avis, ce n'est pas précis. Il n'y a pas eu de chaos. C'était très bien organisé. Comme l'a dit Anna, on voit bien la capacité des médias à faire monter ou descendre l'hystérie, particulièrement à la veille d'événements clés. Cela a toujours été utilisé de manière très précise. Par exemple, en février 2014, les médias russes ont sorti beaucoup d'histoires pour faire peur à la population de l'Est ukrainien. Ils disaient notamment que des bus remplis de fascistes ukrainiens allaient venir à l'Est de l'Ukraine pour attaquer les gens. Cela a eu comme résultat de pousser plus de personnes à participer à des manifestations pro-russes. Et ces manifestations pro-russes ont été couvertes par les journalistes russes comme si la majorité des habitants du Donbass y avaient participé, ce qui est loin d'être le cas. Autre exemple, il y a eu des événements horribles à Odessa en mai dernier, où beaucoup de gens ont péri dans un incendie. Avant qu'il n'y ait pu y avoir d'enquête, les chaînes de télévision russes ont tout de suite annoncé que l'incendie avait été provoqué de manière préméditée par le groupe nationaliste Pravi Sektor. L'info a été matraquée pendant plusieurs jours, jusqu'à la tenue des référendums qui ont mené à la création des républiques séparatistes de Donetsk et de Lugansk. On voit bien que ces vagues d'hystérie, en général, précèdent des actions politiques bien précises. Elles servent notamment à détourner l'attention des populations et à les influencer.
Quand je parlais de chaos, je voulais plutôt parler du chaos dans la perception des gens qui regardent la télévision, pas chez ceux qui créent le contenu. Ceux qui créent le contenu télévisé font des omissions volontaires. Ils limitent l'information qu'ils donnent, et ceci dans un contexte où les sources d'informations alternatives sont rares ou absentes. C'est la personne qui regarde la télé qui voit un certain chaos. Et je vois la même chose du côté de la télévision ukrainienne. Il y a aussi des déformations, des informations qui sont données sur les actions de l'armée russe ou des rebelles sans que cela soit confirmé par qui que ce soit. Là aussi, on voit que c'est à la guerre comme à la guerre, les émotions ne manquent pas des deux côtés. Il y a une autre remarque que je voudrais faire. Lorsqu'en Ukraine, on a fermé les chaînes russes, qui ne sont donc plus diffusées sur le sol ukrainien, cela a provoqué une réaction émotionnelle. Ça peut paraître étrange pour certaines personnes ici, mais les télévisions russes et ukrainiennes ont toujours été très liées. Il y a eu beaucoup de projets en commun. Il y a eu plein de productions de contenus de toutes sortes, que ce soit de l'info, des contenus de divertissement et des séries. Des personnes ont travaillé pour des médias russes et ukrainiens. En fait, ce sont les mêmes personnes qui ont fait la même école et qui ont beaucoup travaillé ensemble. Et quand on ferme les chaînes russes en Ukraine ou les chaînes ukrainiennes à l'est de l'Ukraine, évidemment, ça provoque une réaction très négative dans la population russe.
On va donner la parole à notre quatrième invité. Bonjour Laurent Sabet.
Bonjour.
Vous êtes chef de service Russie Est de l'Europe à Courrier International. Je vois que vous avez pris beaucoup de notes. J'imagine que vous avez des choses à dire déjà sur ce que vous avez entendu.
Oui, bien sûr. Et je me proposais de vous parler assez strictement d'une expérience concrète que nous avons à Courrier International. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un hebdomadaire qui traduit la presse étrangère, qui couvre les événements internationaux à partir de presse non française. Et donc, notre responsabilité dans le service qui concerne la Russie, l'ex-URSS, c'est donc de trouver des sources pour essayer d'éclairer justement le conflit ukrainien. Alors évidemment, il va de soi, et je pense que ça déjà, ça traduit beaucoup de choses, que depuis maintenant un an, on est pratiquement obligé à chaque fois de publier, quand il s'agit de parler de ce qui se passe dans le Donbass, de publier un article traduit de la presse ukrainienne et un article traduit de la presse russe. Bon, on ne peut pas explorer tous les titres, on ne peut pas explorer la presse régionale. mais on a des gens ukrainophones qui lisent la presse de Kiev essentiellement ou de l'ouest de l'Ukraine. Et moi-même, j'explore la presse de Moscou. Hein, on imagine que la presse russe est illimitée, le nombre de titres, donc on se limite à Moscou. Malheureusement, on n'a pas de source du Donbass. Il en existerait, mais c'est pour des raisons pratiques qu'on n'a pas le temps de les lire. Et donc, d'ores et déjà, on est obligé, pour essayer d'approcher une description de ce que le lecteur, en plus le lecteur français, qui quand même se trouve assez loin de tout ça, puisse au moins voir qu'il y a deux points de vue. Hein, faute d'espérer dire la vérité, au moins on donne à lire au lecteur français ces presses qui sont antagonistes, systématiquement. Sauf peut-être, je nuancerais, c'est que la presse russe, alors évidemment, comme disait Anna Kachkaeva, je pense que c'est ce qu'elle appelle la périphérie de l'information en Russie, c'est-à-dire cette presse moscovite de qualité qui a une audience infiniment moindre que la télévision dans cet immense pays. Donc c'est une presse de qualité, une presse très professionnelle et qui essaye, ça se sent, je peux citer des titres, Kommersant, Gazeta.ru, Nezavisimaya, bon. Nous essayons donc d'aller chercher ces presses dignes, professionnelles, critiques, qui ont une habitude de la critique, des presses démocratiques, on peut le dire, en Russie, ça existe. Le problème, c'est l'audience. Et du coup, on s'aperçoit que c'est quand même la presse russe, à mes yeux, hein, mais après beaucoup d'années d'expérience, et notamment de la presse ukrainienne aussi, qui essaye d'être le plus nuancé. Alors c'est une presse qui évidemment est élitiste, mais cette presse-là donc arrive à être un petit peu plus objective, c'est-à-dire qu'elle est capable d'émettre de la critique par rapport aux actions du Kremlin dans ce conflit, ce que on ne trouve pas dans la presse ukrainienne. Cette presse nous la traduisons néanmoins pour contrebalancer au minimum.
Je sais que nos deux invités russes souhaitent réagir. André.
Очень короткий комментарий. Я хотел рассказать об одном, всего лишь об одном факте.
Ma remarque concerne le paysage médiatique ukrainien. Les deux médias au tirage les plus élevés en Ukraine sont des journaux russophones, Vesti et Sevodnia. Vesti appartient à l'oligarque Sergueï Kourtchenko. Il est en fuite et se trouve maintenant en Russie. Il était responsable financier sous Yanukovych. Son journal publie des articles avec des positions modérément pro-russes. Le journal Sevodnia, lui, appartient à Rinat Akhmetov, un oligarque du Donbass. Il y habite encore et il a récemment embauché Oles Buzina, un journaliste assez connu qui tient des positions pro-russes également.
Pour ce qui est des médias de périphérie ou alternatifs, comme je les ai nommés, quelques-uns parmi eux tentent de bien faire leur travail. Mais leur position varie aussi. Certains vont essayer d'afficher une certaine neutralité. Ils dénoncent par exemple les erreurs commises par le gouvernement russe tout en adoptant une position modérée. D'autres vont critiquer directement le Kremlin. C'est le cas de TV Dosht, une petite chaîne de télé, ou du magazine Le Reporter. Leurs journalistes couvrent les événements sur le terrain, mais ils gardent une audience très faible. Les petites chaînes de télé régionales sont un autre exemple de médias non propagandistes. Leurs sujets concernent par exemple le départ de combattants russes pour le Donbass ou le retour des corps de soldats russes morts en Ukraine. Ce sont des médias avec une audience très limitée et qui sont loin d'être au premier plan du paysage médiatique. Une précision supplémentaire sur les médias des républiques autoproclamées de Donetsk ou de Lugansk. Cet été, lorsque les chaînes russes ont couvert les décès de journalistes russes, au moment où ils diffusaient leurs sujets, on pouvait apercevoir sur l'écran les logos de médias complètement inconnus auparavant. C'était des logos d'agences de presse comme iCorpus, Ananews, Novorossiya Info, qui sont enregistrés sous un nom de domaine .ru. Ananews est basé en Abkhazie, par exemple. Ces médias apportent un soutien médiatique aux républiques autoproclamées et légalisent, d'une certaine manière, les informations qui en proviennent.
Alors, on est avec Stéphane. On va lui donner la parole dans un instant. Stéphane, tu nous entends ?
Oui. Est-ce que vous m'entendez bien ? Je vous... Bien.
On t'entend très bien. Merci pour ta patience. Ça fait une heure que tu es devant ton ordinateur. Tu as pu entendre une partie des choses qui se sont dites. Ce que je te propose, c'est de conclure. Donc Stéphane, oui, Simon, tu travailles pour Le Figaro, tu travailles pour Le Soir, tu es journaliste, tu es en ce moment en Ukraine. Qu'est-ce que tu souhaites, toi, partager avec le public ici, qui te semble important sur le métier de journaliste et puis sur la manière dont on peut couvrir, raconter ce qui se passe en ce moment en Ukraine?
Ce que j'observe ces derniers jours, et notamment depuis que le conflit est en train de passer dans une nouvelle dimension, c'est une très forte polarisation en cours des positions. Le conflit est en train de s'enfoncer de manière militaire, c'est absolument certain. La diplomatie a très peu de prise sur ce qui est en train de se passer. Et le travail devient de plus en plus difficile pour nous, journalistes, parce que nous avons des accès de plus en plus limités à l'information, aussi bien du côté des républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lugansk, que du côté ukrainien. Actuellement, je me trouve du côté ukrainien de la ligne de front. Les autorités ukrainiennes ont mis en place des laissez-passer, des limitations de circulation pour les journalistes, aussi bien ukrainiens qu'internationaux. Donc maintenant, il est de plus en plus difficile de passer la ligne de front et de pouvoir témoigner des deux côtés. On sent également que nos interlocuteurs sont de plus en plus tendus parce que la situation militaire est de plus en plus grave. Et on sent qu'il va être de plus en plus difficile de faire notre travail si jamais le conflit continue de s'aggraver de cette manière.
Qu'est-ce qui motive ta présence sur place? Pourquoi tu es sur place et pourquoi ça te paraît important de couvrir la situation aujourd'hui dans ce pays?
Parce que je me rends compte qu'il y a une méconnaissance complète de ce qui se passe dans ce coin de l'Europe, dans l'opinion publique française. On a tous fait un gros travail, on a essayé de faire un travail de pédagogie ces derniers mois, mais on se rend compte encore que les réalités de l'Ukraine sont assez difficiles à comprendre. Et donc nous, ce qui nous motive, c'est tout simplement de continuer à faire ce travail de pédagogie sur un conflit qui va marquer l'Europe, sans doute dans les années à venir.
Merci Stéphane, merci beaucoup. Bon courage, fais attention à toi. Merci à tous nos invités et qui parfois ont fait un long voyage pour venir vous parler, pour venir vous rencontrer. Et merci à vous, le public. On peut applaudir, je pense. Merci.
Ça suffit, Internet Stan. Tu dois aller dormir.
5 minutes, j'ai encore des trucs à faire.
Chérie, déconnecte Internet et va te coucher. Oh, Andy, tu peux te déconnecter.
Mais Sharon, je dois envoyer un email à
l'atelier des médias.
Stan, j'ai besoin de ton ordinateur.
Papa, il y a Internet qui veut plus marcher.
On n'a plus Internet. On n'a plus rien.
Comment on faisait pour avoir des infos avant qu'il y ait Internet?
Atelier@rfi.fr.
Clic, 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 clic. Très bien, Internet. Qu'attendez-vous de nous?
RFI.
Bonjour Francis Pisani.
Bonjour Ziad Mahalouf.
Comment ça va?
Très bien, sous le soleil parisien.
Oui, tu es de passage à Paris pour assister au forum NetExplo. Et d'ailleurs, tu veux nous parler de ce forum aujourd'hui.
Écoute, d'abord, je crois qu'il faut rappeler ce dont il s'agit. C'est un forum qui contribue à un travail de recherche des innovations dans le monde entier. C'est la 8e année qu'il a lieu. Et cette recherche leur a permis, par exemple, de détecter l'importance de Twitter avant plein d'autres. Je tiens à dire que je fais partie de leur réseau, qu'ils mettent dans mes voyages et que j'apprécie ce qu'ils font. Ceci dit, cette année, grâce à leur contribution avec des universités dans le monde entier, ils ont pu travailler sur 1200 projets et ils ont choisi 10 lauréats de 8 pays, dont la Croatie, la Corée, les États-Unis, Israël, la France et le Togo. Le premier prix, parce qu'on remet toujours un prix, est revenu à une équipe universitaire coréenne qui a inventé un système permettant de transformer la chaleur de la peau en énergie. Cette énergie peut être utilisée pour alimenter les appareils dont nous nous bardons de plus en plus. C'est pas encore, il y en a pas encore assez pour le téléphone, même pas vraiment pour la montre, ce qui devrait arriver bientôt, mais ça peut déjà alimenter les bracelets connectés qui mesurent nos fonctions vitales.
NetExplo ne parle pas que d'innovation, on y parle aussi de tendance, n'est-ce pas?
Tu as tout à fait raison, et c'est une des parties les plus passionnantes. Elle est présentée pour la 3e fois cette année par Julien Lévy, qui est professeur à HEC. En opposition à l'année dernière, où la montée du Big Data l'inquiétait, il s'est montré plus optimiste cette année grâce à la multiplication d'innovations nous permettant de mieux agir sur notre environnement, de mieux le contrôler, de mieux le personnaliser. Un de ses grands thèmes est l'espace intelligent et en particulier les villes qu'on essaye de rendre signifiantes, voire, je répète, personnalisées, ce qui est, je trouve, assez surprenant et assez intéressant. Parmi les applications qui illustrent cette tendance, j'ai été frappé par Kapo, K-A-2-P-O, du Chili, qui utilise les données de cyclistes pour mieux comprendre les villes en partant de l'idée qu'ils en sont les meilleurs explorateurs. Et j'ai beaucoup aimé NOAAD des États-Unis qui permet de transformer toute annonce publicitaire, toute affiche publicitaire regardée au travers de la caméra d'un iPad en œuvre d'art. C'est vraiment impressionnant. Le dernier thème tournait autour de l'intelligence artificielle qui fait d'énormes progrès et prend des formes utiles aussi bien que d'autres clairement préoccupantes, comme le robot flic. Mais la question de fond est posée par Stephen Hawking qui nous annonce que la difficulté n'est plus vraiment de savoir qui contrôlera l'intelligence artificielle, elle est de savoir s'il est possible de la contrôler.
Merci Francis Pisani, on peut retrouver tes contributions sur ton blog francispisani.net, sur les sites de l'Opinion et de la Tribune, et bien entendu sur ton blog de l'Atelier des médias. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine Ziad.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
C'était l'émission numéro 371 de l'Atelier des médias proposée par Anya Stroganova, Marie-Catherine Beuth, Francis Pisani, Manon Mella, Mélissa Barra, Dilette Sadawi, Jules Nardouet, Raja Yahyaoui, Simon De Creuse et Ziad Malouf. Merci à toute l'équipe du Festival Russenko et à Daniel Schwerblis pour la traduction. N'hésitez pas à nous lire, nous suivre, nous contacter sur Twitter, Facebook, atelier.rfi.fr, mondoblog.org, libiablog.org et arablog.org. Merci pour votre écoute, pour vos réactions, pour vos encouragements. Salut à toutes et à tous.
C'est fini ou c'est pas fini?
Ah ouais, les bonus.
Les bonus.
Ben, ça continue sur Internet.